Bruno Thérien, IG Gestion de patrimoine, bon matin.
Bon matin, Steve.
On en glisse un mot depuis déjà un certain temps, mais finalement, on commence à jaser de plus en plus de baisses de taux, d'abord aux États-Unis.
Oui, bien, écoute, les yeux hier étaient vraiment rivés vers la Fed pour savoir non seulement ce qu'ils feraient au niveau du taux directeur, mais surtout savoir qu'est-ce qu'ils nous diraient comme argument. Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, parce que l'augmentation ou la diminution du taux, c'est une chose, mais de savoir pourquoi ils le font ou pourquoi ils maintiennent le statu quo. Donc, hier, dans une décision que je dois préciser qui était loin d'être unanime, donc ça veut dire qu'on avait des dissidents à l'intérieur du Conseil, bien, on a décidé de laisser les taux inchangés pour le moment, mais on a quand même prévenu du côté de la Fed qu'on était désormais sur le qui-vive là, parce qu'on veut soutenir l'économie en abaissant les taux s'il y a un ralentissement qui se dessine à l'horizon. Donc, et là, on le sait, là, Donald Trump fait beaucoup de pression là, depuis un bon bout de temps pour une baisse des taux. Et ben, la Fed ne l'a pas écouté. Donc, la Fed, par contre, a dit on abandonne notre attitude de patience vis-à-vis un prochain ajustement des taux. Ça veut dire on y songe de plus en plus parce qu'on parle d'aggravation des incertitudes économiques. Et comme il faut agir pour soutenir l'expansion, ben, ça laisse entendre qu'on est prêt à assouplir la politique monétaire du côté de la Fed. Et par rapport au début mai, écoute, il y a juste un mois à peu près, là, la Fed a relevé que l'économie avait progressé à un rythme modéré au lieu de solide. Donc, on avait dit le mois dernier, l'économie est quand même solide. Là, on a dit, c'est modéré. Donc, notamment, on parle du conflit commercial avec la Chine, des incertitudes sur les perspectives qui avaient augmenté. Et là, ben, on dit, vu ces incertitudes-là et aussi l'état de l'inflation qui n'arrive pas à rejoindre le 2%, qui est comme la cible, si on veut, de la Fed, ben qu'on pourrait être obligé d'agir, et ça dès la prochaine rencontre de la réunion, la prochaine réunion monétaire qui est prévue le 30 et 31 juillet, donc dans un mois et une semaine environ. Et là, déjà, il y a une écrasante majorité d'acteurs financiers, des analystes, des experts qui prévoient une baisse des taux. Donc, ça ne serait pas surprenant dans un mois de voir une baisse d'un quart de point de pourcentage au niveau de la Fed aux États-Unis. Et ben, c'est ça. Donc, on regarde, par exemple, l'inflation. Là, déjà, la Fed a abaissé sa prévision d'inflation pour cette année à 1,5% au lieu du 1,8% qui avait été projeté en mars dernier. Mais au départ, on parlait d'au-dessus de 2%. Donc, on voit là que ça va un petit peu moins bien. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aux yeux de nombreux économistes, puis là, je te cite entre autres JP Morgan Chase, on dit qu'il y a près d'une chance sur deux. On parle de 45% de chance que les États-Unis entrent en récession l'année prochaine. Donc,
c'est assez élevé comme probabilité, là.
Ben oui, absolument. Puis pourtant, la Fed prévoit 2% d'expansion en 2020 au lieu d'1,9% il y a trois mois. Donc, on voit là qu'il y a certaines incertitudes et il faudra voir un petit peu. Mais tout ça pour vous dire, actuellement, la Fed est supposée être un organisme totalement autonome et indépendant du président ou de la Maison-Blanche. Mais là, on voit beaucoup de pression et même il y a une possibilité, la Maison-Blanche a étudié la possibilité d'enlever des pouvoirs à Jerome Powell, qui est le président de la Fed, pour le mettre simplement comme gouverneur. Donc, on voit là qu'on essaye du côté de la Maison-Blanche de prendre le contrôle de la Fed. Puis, c'est pas nécessairement surprenant parce qu'on s'en va dans l'année électorale et ça serait catastrophique pour le président actuel si on devait vivre avec une récession ou une situation où vraiment les marchés se porteraient pas bien.
Donc, ben là, il y aurait plus de difficultés à justifier, disons, son bilan. Hein? C'est la politique qui se mêle un petit peu de l'économie. Mais une chose est sûre, Bruno, si on regarde ce qui se passe un peu aux États-Unis, à court, moyen, j'ai envie de dire long terme, ça sent pas tellement la hausse de taux au Canada, mettons.
Non, ben le Canada, on se retrouve dans une situation inverse parce que selon Statistique Canada, puis c'est des chiffres qui ont été publiés hier, on dit que la hausse des prix des aliments puis des biens durables a entraîné une hausse de l'inflation au pays. Donc, on parle on a progressé de 2,4 % en mai, Ça, c'était, on avait 2 % en avril, qui était déjà quand même pas mal. Et ben, on dit que principalement, c'est vraiment les aliments et les biens durables, parce que ça, les consommateurs ont dû débourser 3,7 %. C'est pas vrai, 3,5 % en mai de plus. Mais par contre, l'essence a fait diminuer parce qu'on a déboursé 3,7 % de moins pour l'essence si on se compare à mai 2018. Mais le principal coupable, puis là, surtout pour les enfants qui nous écoutent, là, puis qui n'aiment pas beaucoup les légumes dans leur assiette, vous allez avoir une défaite de plus pour dire que vous ne voulez pas de légumes.
Parce ça coûte
que
cher.
C'est là que ça coûte cher. On a déboursé 16,7 % de plus pour les légumes frais qu'en mai 2018. Et on dit que c'est principalement le problème d'approvisionnement qui est attribuable aux intempéries dans certaines régions. Donc, bref, ça va pas si mal au Canada. On est d'une situation un peu contraire aux États-Unis.
As-tu vu le céleri, Bruno?
Le céleri, non. Moi, c'est pas moi qui fais l'épicerie chez nous. Je dois l'avouer, là, mais par contre, j'aime beaucoup les légumes.
Écoute,
je mange à peu près tous les légumes.
C'est du 5-6 $ le céleri, c'est assis. Non, c'est impressionnant. C'est un petit peu trop. Merci beaucoup, Bruno Terrier. On aura l'occasion de se reparler demain. Au plaisir.
Bye, à demain.